Radio Campus 88.3.
Eh, hey, tu t'es cru à New York.
C'est génial, c'est le meilleur projet qu'on ait fait jusqu'ici.
Radio Campus 88.3.
Radio Campus 88.3 FM. Le moulin à paroles. Restitution de l'atelier radiophonique et paroles partagées. Le moulin à paroles.
La radio des écoles. Atelier d'initiation d'expression radiophonique dans les établissements scolaires d'Orléans. Sur Radio Campus 88.3, la radio des écoles.
Bonjour à tous, bienvenue sur Radio Campus Orléans. Nous sommes la classe de 1G3 du lycée Benjamin Franklin et nous avons, dans le cadre de l'enseignement moral et civique, préparé divers sujets tels que les inégalités hommes-femmes, les conflits ou encore les fake news. Nous allons commencer par les inégalités hommes-femmes à travers les droits et la politique. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Lilou. Bonjour Lilou.
Bonjour Léna.
Lilou va nous parler d'un thème qui lui tient à cœur.
C'est exact. J'aimerais vous parler des inégalités hommes-femmes dans la vie politique.
Et plus précisément, de quoi en particulier ?
Je souhaite vous parler d'une personne importante que vous connaissez sûrement. Je vais vous parler de Simone Veil. De plus, il existe un film qui retrace son combat intitulé « Simone, le voyage du siècle » qui est sorti au cinéma en 2021 et qui a été réalisé par Olivier Dahan.
Tout d'abord, pourriez-vous nous dire qui est Simone Veil ?
Bien sûr, Simone Veil est née en 1927 et elle est morte en 2017. C'était une magistrate et une femme d'État français. Elle a été déportée à Auschwitz durant le Troisième Reich, c'est le plus grand camp de concentration. Elle avait 16 ans pendant le SOA. C'est une rescapée, elle a survécu à cette guerre. Et elle a par la suite fait des études de droit et de politique.
Quel a été son combat pour l'obtention de l'égalité homme-femme ?
Simone Veil s'est battue pour notre légitimité politique, pour notre émancipation, pour les droits sexuels et reproductifs avec le consentement, pour la vie de famille, c'est-à-dire l'ensemble des conditions de vie d'un foyer, pour les violences faites aux femmes, comme par exemple les agressions sexuelles. Elle a préparé la parité, c'est-à-dire l'accès des femmes et des hommes aux mêmes opportunités.
Et quels ont été les résultats de son combat ?
Elle a fait voter une loi pour l'obtention de l'IVG.
Pouvez-vous nous rappeler la date de ce droit fondamental ?
Ce droit a été mis en vigueur le 19 janvier 1975.
Comment a-t-elle fait pour obtenir ce droit ?
Valérie Giscard d'Estaing, président de la République à cette époque, se lance sur la réforme de l'avortement. Il confie le projet de loi à sa ministre de la Santé, Simone Veil, qui défend le texte devant l'Assemblée nationale puis le Sénat. C'était un long et tendu débat. Par la suite, il y a eu un vote qui a été en faveur de ce projet. La loi a donc été accordée.
Mais quel était son poste ?
Avant de devenir la ministre de la Santé, elle occupait le poste de secrétaire générale du Conseil supérieur de la magistrature.
Qu'est-ce que cette loi a réellement changé ?
Il permet à toute femme enceinte de demander à un médecin ou à une sage-femme l'interruption de sa grossesse sans avoir à fournir de justification.
Avez-vous quelques exemples sur les conditions d'accès à l'IVG ?
Oui. Par exemple, l'IVG est possible jusqu'à 14 semaines de grossesse et une mineure n'a pas besoin d'une autorisation parentale pour avorter mais doit être obligatoirement accompagnée d'une personne majeure.
A-t-elle mené ce combat facilement ?
Malgré les attaques, les menaces, les insultes, elle a tenu bon pour la légalisation de l'avortement. Elle a subi toutes sortes d'injures, parfois même antisémites. Certains vont jusqu'à comparer l'avortement à un crime nazi.
Quelle est son action pour les inégalités hommes-femmes dans le domaine de la politique ?
Un pacte a été réalisé visant l'engagement des États de l'Union européenne à adopter des mesures en faveur du droit des femmes visant à faire de l'égalité homme-femme un droit fondamental dans la construction européenne. Le pacte est constitué entre signataires pour améliorer leur responsabilité des droits des femmes en Europe. Ce pacte porte donc le nom de Simone Veil.
Mais comment pourrait-on la qualifier ?
On pourrait qualifier Simone Veil d'immortelle. Elle a été inhumée le 1er juillet 2018 au Panthéon et devient la 5e femme immortelle parmi les 76 grands hommes.
Comment a-t-elle réagi face à ce pseudonyme d'immortelle ?
Elle a réagi au lendemain de son élection à l'Académie française en disant « C'est un grand honneur de devenir immortel. Et à ajouter, pour ma part, j'ai depuis longtemps dépassé l'idée de l'immortalité dans la mesure où je suis déjà un peu morte dans les camps de concentration.
Vous oubliez un détail important sur son parcours.
C'est vrai. Dès 1979, Simone Veil était élue la première présidente du Parlement européen.
Très bien, merci beaucoup pour cette présentation et votre investissement.
Merci à vous pour votre accueil ainsi que votre invitation.
À très bientôt, au revoir.
Au revoir.
La radio des écoles sur Radio Campus Orléans.
Bonjour, merci à Léna et Lilou de nous avoir présenté le rôle de Simone Veil. Je m'appelle Méline et aujourd'hui je suis en présence de Léna et Soukaina. Pour continuer sur la question de la place de la femme, nous allons vous parler des inégalités salariales dans les secteurs privés. Léna commencera par vous parler de l'impact de la situation familiale dans cette inégalité. Dans un second temps, je vais vous énoncer l'importance du choix du secteur de travail. Puis, Soukaina vous exposera les évolutions que connaît ce phénomène. Je laisse dès maintenant la parole à Léna.
Bonjour. Je peux constater, après avoir lu et étudié plusieurs articles de presse et de documentaires, que le revenu salarial d'une femme dépend régulièrement de sa situation familiale. Les écarts croissent tout d'abord en fonction du nombre d'enfants. En effet, d'après l'INSEE, en 2021, l'écart des revenus est en moyenne de 6,1% parmi les salariés de privé n'ayant pas d'enfants, mais atteint 29,5% entre les mères et les pères de 3 enfants ou plus. Si cet écart intervient, c'est parce qu'une fois un enfant né, une mère voit son salaire diminuer, notamment en vue du congé maternité qui interrompt sa carrière pendant un certain temps. Cependant, cela n'explique pas le salaire moyen des femmes inférieur à ceux des hommes, à temps de travail identique.
Bonjour, je me présente et j'ai une question pour Méline qui est, y a-t-il d'autres facteurs qui influencent ces inégalités ?
Si ces inégalités persistent toujours aujourd'hui, c'est en effet en lien avec le secteur de travail occupé généralement par les femmes. En 2021, le revenu salarial moyen d'une femme et d'un homme à poste égal ainsi qu'à temps de travail comparable est inférieur à 4%. Cependant, si ces écarts de salaire sont importants, c'est dû au domaine professionnel généralement occupé par des femmes. Par exemple, le métier d'agent d'entretien est occupé à 94,8% par des femmes et son revenu salarial est de 1450 euros, soit un revenu faible par rapport au taux d'inflation qui croît, ce qui peut amener à un niveau de vie précaire. Cependant, beaucoup de femmes ne choisissent pas leur métier et le font par obligation.
Est-ce que les femmes occupent des postes à haut grade ?
Ainsi, les femmes occupent également moins de postes de direction. En 2021, elles représentaient 34% des cadres dans l'Union européenne, bien qu'elles représentent près de la moitié des employés. De plus, si on regarde les différents métiers, les femmes cadres sont bien plus désavantagées puisqu'elles gagnent 23% de moins par rapport aux heures, par rapport aux hommes et par rapport au nombre d'heures qu'elles font. Soukaina va maintenant vous parler des évolutions de ce phénomène.
Donc, malgré tous ces facteurs d'inégalité, on peut observer une diminution de ce phénomène. D'après le site de l'Observatoire des activités, les inégalités se réduisent peu à peu. Progressivement, les salaires des femmes se rapprochent de ceux des hommes. En 1960, on observe un écart de 60%, alors qu'en 2020, l'écart est de 17%. Si l'on continue comme les 10 dernières années, dans 30 ans, il n'y aura plus d'écart. De plus, une nouvelle génération de femmes s'installe car elles sont de plus en plus diplômées, ce qui leur permet d'accéder à des postes mieux rémunérés comme médecins ou ingénieurs.
Qu'a-t-il été mis en œuvre pour combattre ces inégalités ?
Pour encourager les femmes à travailler davantage dans des domaines de plus haut grade et à diminuer ces inégalités salariales, les pays de l'Union européenne devront imposer des sanctions telles que des amendes aux employeurs qui enfreignent les règles. Cette proposition dite par l'Union européenne a été approuvée par le Parlement, qui souhaite lui aussi réduire ces écarts et faciliter l'accès des femmes aux postes de direction et promouvoir l'égalité des sexes au sein de l'administration. Pour ce faire, en 2022, les députés ont approuvé des règles de recrutement transparente afin qu'au moins 40% des postes de directeurs soient occupés par des femmes.
Pour conclure, en effet, ces inégalités persistent pour de nombreuses raisons précédemment exposées, mais également à cause de certaines mentalités sexistes. Ceci n'étant pas pour autant définitif, il faut soutenir ces améliorations sans aucun retour en arrière. Les mentalités évoluent, le gouvernement tente d'améliorer les choses en changeant la loi, alors ces inégalités salariales devraient vivement diminuer, voire même disparaître un jour. Ainsi, cela pourrait également faire diminuer les inégalités entre hommes et femmes dans beaucoup d'autres domaines.
Et quoi de mieux qu'une chanson féministe pour illustrer ce propos? Petite pause musicale avec Vivine Quintara et sa canción Sin Miedo. On revient dans quelques minutes dans la radio des écoles avec le groupe 1 de la classe 1G3 du lycée Benjamin Franklin. 88.3, c'est Radio Campus Orléans.
Tiembla el estado, los cielos, las calles, que teman los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas. A cada minuto de cada semana nos roban amigas, nos matan hermanas, destrozan sus cuerpos, las desaparecen. No olviden sus nombres, por favor, señor presidente.
Por todas las compas marchando en Reforma, por todas las morras peleando en Sonora, por las comandantas luchando por Chiapas, por todas las madres buscando a Tijuana, cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida, que retumbe fuerte, nos queremos vivas, que caiga con fuerza el feminicida.
Yo todo lo incendio, yo todo lo rompo. Si un día algún fulano te apaga los ojos, ya nada me calla, ya todo me sobra. Si tocan a una, respondemos todas.
Gritamos por cada desaparecida, que retumbe fuerte, nos queremos vivas, que caiga con fuerza el feminicida, que caiga con fuerza el feminicida.
Y retiembla en sus centros la tierra, al soror
y retiembla en sus centros la tierra al sonoro rugir del amor.
La radio des écoles sur Radio Campus Orléans.
Je m'appelle Esteban, je suis en compagnie de Paulin. Nous remercions nos camarades d'avant et nous allons poursuivre sur un thème totalement différent.
Bonjour à tous.
Nous allons aujourd'hui revenir sur une affaire qui a duré plusieurs années et qui a touché des millions de personnes à travers le monde entier. En effet, il s'agit du cartel de Medellín, dirigé par l'un des plus grands trafiquants de drogue de l'histoire, Pablo Escobar. Nous allons retracer cette histoire mondialement connue en vous montrant l'impact colossal que cette période a eu. Pour débuter, Paulin, peux-tu nous parler des différentes difficultés liées à l'économie du pays ?
Bien sûr. Alors pour entrer directement dans le vif du sujet, le cartel de Medellín a généré des millions de dollars à la Colombie. Mais ça a eu des conséquences de transformer l'économie du pays. Vous vous doutez bien qu'un pays pauvre comme la Colombie, avant l'apparition de ces trafics de drogue, voit son économie changer.
C'est sûr que la Colombie ne produisait de l'argent que grâce à des trafics.
En effet, la Colombie s'est beaucoup développée durant cette période, mais avec une méthode pas très légale. Vous vous doutez bien. D'ailleurs, ces cartels de drogue n'ont pas apporté uniquement de l'argent sale au pays.
Et tu aurais quelques exemples de ce que ont apporté ces cartels à la Colombie ?
Bien évidemment. On peut par exemple parler de la réputation de la Colombie qu'elle a toujours aujourd'hui.
C'est sûr que c'est pas un pays où on irait passer les vacances d'été.
Ça c'est sûr. On peut aussi parler de l'extrême violence qui régnait dans les rues, et pas qu'à Medellín.
Oui d'ailleurs, ces violences débutèrent après une période bien précise de la vie de Pablo Escobar. Mais on en reparlera juste après, alors restez bien jusqu'au bout.
Alors, pour revenir sur ces violences, on peut déjà commencer par dire qu'il y en avait entre plusieurs groupes. Il y avait le très connu cartel de Medellín, contre leurs opposants tout aussi connus, le cartel de Cali. Mais il y avait beaucoup de tensions avec le gouvernement colombien également. Cette violence se montrait par des meurtres, des assassinats, des actes terroristes avec un groupe paramilitaire par exemple.
C'est vrai que ce pays a traversé une période de presque guerre civile où même les enfants étaient armés. Mais ces violences ont débuté juste après la campagne politique que Escobar a tenté de débuter sans jamais réussir à la lancer réellement. Il a tout de même investi des millions de dollars pour aider les bidonvilles qui constituaient ce pays, qui, je le rappelle, était très pauvre.
Pour conclure cette émission, il faut dire que ce cartel, créé par deux frères, les frères Ochoa et par Gacha, ainsi que l'un des plus grands barons de la drogue de l'histoire de l'humanité, a réussi à transformer l'économie d'un pays tout entier, mais ce, pas dans la non-violence.
Nous vous remercions d'avoir écouté notre émission qui a traité du plus grand cartel de la drogue du monde. Nous vous souhaitons une bonne fin de journée et une bonne écoute sur la station radio. Et puis nous passons la main à Atif et à Mathis.
La radio des écoles sur Radio Campus Orléans.
Bonjour.
Bonjour, avec qui nous sommes ?
Avec Atif, jeune étudiant du lycée Benjamin Franklin, première G3.
Alors dites-nous, monsieur Atif, qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui avec nous ?
Aujourd'hui, je me retrouve ici à Radio Campus pour parler de ce qui se passe actuellement dans la bande de Gaza, surtout sur la réaction disproportionnée d'Israël.
C'est-à-dire ?
Comme on l'a vu, Israël a été attaqué par une attaque terroriste de Hamas le 7 octobre 2023, qui est une organisation palestinienne et qui leur a provoqué une perte de 1139 morts. Et chaque perte humaine est une tragédie, quelle que soit la nationalité, la religion de la personne concernée.
Où voulez-vous en venir ?
Je veux dire que cette réaction disproportionnée d'Israël derrière l'excuse de self-défense qui a fait subir les Palestiniens une violence aveugle, comme l'attaque envers l'hôpital de Gaza qui a causé 200 morts apportées par le ministre de la Santé palestinienne. Chaque heure qui passe à Gaza, 15 personnes sont tuées, dont 6 sont des enfants. 35 autres sont blessées, tandis que 42 bombes sont larguées et 12 bâtiments sont réduits en ruines. Ces chiffres parle d'elle-même et révèle l'ampleur de la catastrophe humanitaire qui se déroule sous nos yeux. Les dernières données fournies par Al Jazeera, issues de Hamas, sont alarmantes et exigent une réponse immédiate et solide de la part de la communauté internationale.
Pardon si je vous interromps, monsieur Atif, mais pourriez-vous donner des chiffres et des détails actuels ?
Les chiffres sont désastreux et vraiment choquants. Il y a plus de 32 000 Palestiniens qui ont perdu la vie depuis le début de ce violent conflit, dont plus de 13 000 enfants et 8 400 femmes, sans prendre compte les femmes violées par les soldats devant leur famille. Ces stats ne sont pas seulement des nombres, elles représentent des vies brisées, des familles déchirées et des rêves anéantis, et même au point où leur espoir de recevoir de l'aide sont détruits. Certes, vous allez me dire, Israël n'a pas le droit de se défendre. Je vous dis oui, Israël a le droit de se protéger contre les menaces à sa sécurité. Mais ce droit ne peut pas justifier en aucun cas une réaction qui va bien au-delà de la légitime défense. Les attaques contre des civils, les hôpitaux et les infrastructures essentielles sous prétexte de la présence présumée de Hamas sont inacceptables et doivent être condamnées avec la plus grande fermeté.
Qu'est-ce que vous voulez nous dire pour conclure ?
En cette période sombre, je souhaite qu'on s'unisse pour exiger la fin immédiate de la violence et le respect des droits humains fondamentaux pour tous les Palestiniens qui souffrent en souffrance inexplicable. Nous devons appeler à la responsabilité de ceux qui commettent ces actes atroces et à la justice pour les victimes innocentes. L'heure est venue de passer de la condamnation aux actions concrètes. Nous devons renforcer nos efforts pour parvenir à une solution pacifique et durable au conflit israélo-palestinien, qui sera fondée sur le respect mutuel, la dignité humaine et la justice pour tous. Merci pour votre écoute. Je laisse maintenant la parole à M. Mathis.
La radio des écoles sur Radio Campus Orléans.
Merci M. Atif pour cette présentation. Nous passons à un autre conflit, celui de la guerre en Ukraine. Nous allons examiner de près l'impact de ce conflit sur les importations liées à la France. Bonjour Maël, pouvez-vous nous en dire plus ? De quel sujet en particulier allez-vous nous parler ?
Bonjour Mathis, aujourd'hui je vais plus particulièrement vous parler de l'importation française du gaz, de l'essence et du blé suite au conflit en Ukraine.
Pouvez-vous nous éclairer à propos de ces sujets ?
Oui, bien sûr, l'importation de gaz a subi de grands changements depuis le début du conflit, ce qui affecte l'approvisionnement du gaz naturel en France, impactant le prix de cette énergie pour le consommateur français et les entreprises.
A-t-elle fortement augmenté ?
Avant la guerre, le prix était entre 70 euros et 80 euros. Ce prix a réellement explosé quelques jours après l'invasion, nous observons un pic à 342 euros.
Est-ce également le cas pour l'essence ?
Oui, effectivement, l'approvisionnement en pétrole et de produits pétroliers est également touché par ce phénomène.
Auriez-vous un exemple précis ?
En effet, les passages maritimes devenus difficiles dans la région de la mer Noire.
Y a-t-il un réel impact sur les prix ?
Bien sûr, il y a un impact sur les prix à la pompe. Avant le conflit, le prix était de 1,70€, puis est passé à 1,90€. Également, les coûts de transport pour les entreprises ont été affectés.
D'accord. Vous avez évoqué plutôt le cas du blé. Pouvez-vous nous en dire plus ?
Bien sûr, l'invasion en Ukraine a engendré des pertes de terrain. Certaines terres agricoles sont devenues inexploitables.
Quel est l'impact de tout ça ?
Cela impacte les prix des produits alimentaires comme le pain et les produits dérivés du blé.
Est-ce que toutes ces conséquences sont uniquement dues à ce conflit ?
Non, le gaz par exemple augmente aussi pour d'autres raisons, comme une demande accrue ou une offre réduite. Pour le blé, les conditions météorologiques défavorables provoquent également une hausse de prix. L'essence a été également touchée par les taxes et les impôts augmentant, donc parfois le prix de celui-ci.
D'accord, merci de nous avoir éclairé sur ce sujet.
Avec plaisir, au revoir.
Au revoir.
La radio des écoles sur Radio Campus Orléans.
Merci à Mathis et Maëlle pour cette présentation en rapport avec la guerre en Ukraine. Ma camarade Lily et moi-même Ambre allons maintenant aborder le phénomène croissant des fake news et du complotisme et leur impact sur la société moderne.
Ces phénomènes ont un impact significatif sur la société car ils peuvent influencer les opinions publiques, polariser les débats, semer la confusion et même menacer la démocratie en zappant la confiance dans les médias et les institutions. Il est crucial d'être conscient de ces problèmes et de promouvoir la pensée critique et la vérification des sources pour contrer leur propagation.
Pour définir cela, les fake news sont des informations fausses ou trompeuses qui sont diffusées intentionnellement pour induire les gens en erreur. Elles peuvent être créées délibérément pour manipuler ou influencer l'opinion publique, propager la désinformation ou servir des intérêts particuliers. Le complotisme désigne une tendance à interpréter des événements comme étant le résultat de complots secrets orchestrés par des groupes puissants ou influents. Les personnes qui adhèrent au complotisme remettent en question la version officielle des événements et croient souvent en des théories du complot non fondées, même en présence de preuves contraires.
Un exemple récent de fake news est la prétendue conspiration autour des vaccins contre la Covid-19, affirmant qu'ils ont conduit à une méfiance accrue envers les vaccins et ont contribué à la propagation de ce virus. Exemple moins récent, l'attentat du 11 septembre 2001, où certaines théories du complot soutenaient que le gouvernement américain était impliqué dans les attaques. Ces fausses informations ont semé la confusion et alimenté la méfiance envers les institutions gouvernementales, entraînant des tensions sociales et politiques.
Les origines des fake news et du complotisme sont la diffusion rapide de l'information sur Internet, la polarisation politique et sociale, les intérêts économiques, la perte de confiance dans les institutions traditionnelles, par exemple les médias.
Principalement, les réseaux sociaux, forums en ligne et groupes de discussion, messagerie instantanée, chaînes de vidéos en ligne en sont les méthodes principales de propagation.
Comme il y a une confusion du public et une perte de confiance dans les médias, il est donc essentiel que les médias restent transparents, vérifient leurs sources et fournissent un contexte adéquat pour aider à rétablir la confiance du public.
En ce qui concerne l'éducation du public à la vérification des sources, cela peut être réalisé à travers des campagnes de sensibilisation, des programmes éducatifs dans les écoles et des ressources en ligne accessibles à tous. La séquence touche à sa fin. Merci d'avoir écouté la classe de 1G3 sur Radio Campus Orléans.
La radio des écoles. Atelier d'initiation d'expression radiophonique dans les établissements scolaires d'Orléans. Sur Radio Campus 88.3, la radio des écoles.
Yeah. 顔をして。 about.